7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 avril. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, pour la première fois, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Vous l'entendrez dès le début du journal, alors que le président russe rejette la faute de la guerre sur les Ukrainiens. On voit ça Anaïs, après les autres titres.
11 jours avant le second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron sur le terrain. Marine Le Pen s'économise à son objectif, le débat de la semaine prochaine. Parfois jusqu'à 5 mois d'attente pour refaire son passeport, les demandes ont explosé de 94% à 3 mois des vacances. Et puis il fut champion olympique en 1948 à Londres, le cycliste Charles Coste décoré aujourd'hui et nous l'avons rencontré.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 Léa.
Allons enfants, c'est le nom du fantastique documentaire qui sort demain en salle, l'immersion dans la section hip-hop du lycée Turgot à Paris, une expérience unique en France emmenée par un professeur génialissime que je vous fais découvrir à 7h50 avec le réalisateur du film Thierry Demézière.
A tout à l'heure Léa, à 8h20 on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec le maire du Havre, président du parti Horizon, ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, j'ai nommé Édouard Philippe. J'attends vos questions amis auditeurs, le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand le poids des mots et de ceux qui les prononcent marque l'histoire avec un grand H, pour la première fois, le président américain accuse son homologue russe de génocide en Ukraine. Un crime commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ça s'appelle un génocide et c'est ce que dit Joe Biden. Il avait déjà qualifié Vladimir Poutine de dictateur, avait déjà évoqué les crimes de guerre et va donc un cran plus loin cette nuit devant la presse de la Maison Blanche.
J'ai parlé de génocide parce qu'il est devenu évident que Poutine essaye d'effacer l'idée même d'être ukrainien. Et les preuves sont de plus en plus évidentes par rapport à la semaine dernière. Elles s'accumulent sur les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine. Nous allons en apprendre de plus en plus sur la dévastation. Et nous laisserons les avocats décider au niveau international si oui ou non on peut parler de génocide. Mais pour moi, ça y ressemble bien.
Joe Biden, cette nuit, propos traduit par Sébastien Paour. Avant lui, Boris Johnson avait estimé que les morts de Boutcha ne semblaient pas loin du génocide. Alors qu'on apprend qu'entre 20 et 22 000 personnes sont mortes à Mariupol, chiffre incertain, dit le gouverneur, qui avoue n'avoir presque plus de contact avec la ville sous blocus. Les soldats ukrainiens y sont encerclés. Ailleurs, pas un jour sans la découverte documentée d'une nouvelle fosse commune. Des centaines de cas de viols constatés, accuse aussi le président ukrainien. Des exactions de l'armée russe nié en bloc par Vladimir Poutine qui, dans un discours assez surréaliste hier, accuse l'Ukraine de propager de fausses informations pour salir la Russie. Le chef du Kremlin était à 7000 km de Moscou pour célébrer le premier vol spatial de Yuri Gagarin. Il a douché tout espoir de paix rapide, expliquant que la guerre risquait de durer encore, car s'il n'y a pas de négociation, c'est à cause, je cite, des incohérences de l'Ukraine.
Ce qui se passe en Ukraine est une tragédie, mais ils ne nous ont pas laissé le choix. Il n'y avait tout simplement pas le choix. J'avais dit avant même le début de l'opération qu'un affrontement avec ces forces élevées, éduquées par l'Occident, un affrontement avec les nationalistes extrémistes et les néo-nazis en Ukraine était inévitable. Quant à ce qui concerne l'opération elle-même, j'entends souvent la question « Est-il possible d'aller plus vite ?» C'est possible, cela dépend de l'intensité des combats. Mais l'intensité des combats est malheureusement liée aux pertes d'une manière ou d'une autre. Notre tâche est d'atteindre tous nos objectifs en minimisant les pertes. Et nous agirons de manière ordonnée et confiante conformément au plan initialement défini par l'état-major général.
Les propos de Vladimir Poutine recueillis et traduits par Sylvain Tronchet. La Russie concentre désormais ses efforts militaires sur le Donbass, se retirant donc de larges zones ailleurs dans le pays, comme Tchernobyl. Nos envoyés spéciaux Camille Magnard et Laurent Macchietti ont pu rencontrer l'un des employés de la centrale occupée pendant 35 jours par l'armée russe. Et si la catastrophe nucléaire, un temps redoutée, n'a pas eu lieu, c'est en bonne partie grâce à ses employés qui ont assuré la sécurité du site. Témoignage.
Le 23 février à 20h45, j'ai pris mon poste pour 12 heures, comme d'habitude. Et je ne l'ai pas quitté pendant 45 jours.
Valérie Semyonov est ingénieur chargé de la sûreté à Tchernobyl. Il s'y est retrouvé piégé dès le début de l'invasion russe.
Le 24 février, vers 17h, j'ai remarqué sur mes caméras de surveillance des nuages de fumée. Il y avait deux engins de transport de troupes, des camions et un tank dont sont descendus des soldats russes.
Les combats seront très courts. Ukrainiens comme Russes sont conscients du risque colossal si un obus venait à tomber sur la centrale. Alors ils collaborent, même quand la guerre prive Tchernobyl de l'électricité essentielle pour son refroidissement et que le diesel vient à manquer pour les générateurs de secours.
Alors on a dit aux Russes, vous nous occupez, donc c'est à vous de gérer ce problème. Le premier jour, ils ont ramené 4 citernes de diesel. Sauf qu'on leur a précisé qu'on avait besoin de 27 tonnes par jour. Au bout du quatrième jour sans électricité, ils nous ont posé un ultimatum. Ou bien on acceptait de raccorder la centrale sur le réseau électrique biélorusse, ou bien ils arrêtaient les approvisionnements. On a été obligé d'accepter.
Valérie Semyonov se dit persuadée que le diesel fourni par les Russes est celui qui a manqué à leur char pour envahir Kiev. Tchernobyl, finalement, a peut-être sauver la capitale ukrainienne.
Reportage de Camille Manière avec les moyens techniques de Laurent Macchietti en Ukraine. Et puis en France, près de 24 milliards d'euros d'actifs russes sont immobilisés. En très grande partie, ce sont les comptes français de la Banque Centrale Russe. Mais il y a aussi des cargos, des yachts, des hélicoptères, des œuvres d'art et des biens immobiliers. Et puis au Mali, c'est un incident sans précédent. Des roquettes tirées par des hélicoptères maliens pilotés par des Russes à proximité d'un détachement de casques bleus britanniques. Les casques bleus sont sains et
Il est 7h06, ce sera l'événement du second tour de la présidentielle, Anaïs, le débat entre les deux candidats.
Et ce sera le 20 avril, match retour du débat d'il y a 5 ans. Mais cette fois, pas question pour Marine Le Pen de refaire les mêmes erreurs et approximations. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous suivez la campagne de la candidate d'extrême droite et elle assure ne rien laisser au hasard.
Oui, à partir de lundi prochain à la mi-journée, la candidate va se mettre au vert. Une retraite studieuse dans l'ouest de la France, dans une maison de campagne appartenant à l'un de ses conseillers de l'ombre. Au programme, répétition du débat avec un clone d'Emmanuel Macron, énarque du même âge, mêmes origines sociales, actuellement en poste dans l'administration. 2 ou 3 séances sont envisagées, ainsi qu'un travail par séquence avec des experts, nous dit-on. Le RN qui négocie en ce moment avec les organisateurs pour qu'il n'y ait pas 54 thèmes abordés, resserrer le débat pour pouvoir aller au bout des sujets.
Et le Rassemblement National, Élodie, a un modèle en tête pour ce débat ?
Oui, le débat Jospin-Chirac en 1995, réputé pour être le plus inintéressant de l'histoire de la Ve République à l'époque. Les deux hommes s'étaient montrés courtois sans attaque corrosive ou petite phrase pour pimenter l'exercice. L'idée, confie un stratège de la campagne, c'est de montrer que les deux candidats maîtrisent leur agenda, leur programme et ensuite les gens choisissent. En d'autres mots, l'objectif n'est pas qu'Emmanuel Macron en sorte abîmé, mais que Marine Le Pen en sorte grandi, on gagnera, explique encore un cadre du RN, si les gens se disent à l'issue qu'avec elle, la France ne partira pas en lambeaux. Le débat, dernière carte de la candidate pour convaincre de sa solidité.
Élodie Forêt est du côté de son soutien Éric Zemmour. On reproche à Marine Le Pen de ne pas se positionner pour gagner en refusant la main tendue de l'ancien polémiste. S'il y a des gens qui préfèrent perdre tout seul que gagner à deux, ils porteront leur responsabilité, a déclaré hier l'ancien RN Jean Messia. De son côté, Emmanuel Macron était hier à Strasbourg devant des milliers de personnes en plein air, chahuté par des pros Mélenchon ou des défenseurs du climat. Il dit entendre et partager les préoccupations et critique les projets qui proposent de sortir de l'Europe. Reportage dans le journal de 8h. À Toulouse, l'IGPN a ouvert une enquête. 10 femmes ont porté plainte contre un brigadier chef formateur à l'école de police pour des faits de harcèlement sexuel. La vague du Covid-19 toujours bien présente en France. Les contaminations stagnent sur un plateau élevé, toujours plus de 133 000 nouveaux cas tous les jours. Et tendance en hausse à l'hôpital, 4 000 nouveaux patients en 2 semaines.
Et après 2 ans de pandémie, les 7h09, qui ne rêve pas d'horizon nouveau?
Eh oui, Nicolas, de dépaysement, de découverte, mais l'appel du voyage se heurte parfois à la bureaucratie. Les délais pour obtenir un passeport ou une carte d'identité explosent dans toute la France et depuis des mois, Delphine Evenoux.
Une 50aine de jours de délai selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur qui datent de janvier. Mais selon les décomptes de nos confrères de France Bleu, cela peut grimper bien plus. Jusqu'à 3 mois dans le Loiret, la Vienne ou la Creuse, 4 mois en Alsace, 5 mois mois en Loire-Atlantique ou par endroits en Bretagne, comme à Pontivy, où les juilletistes qui s'y prennent maintenant risquent la déconvenue. L'effet vacances après pandémie, mais pas uniquement, selon Paul Le Guernic, le maire adjoint.
En plus du phénomène conjoncturel, il y a un phénomène d'organisation qui est dû à la réforme de 2017. Vous voyez, il y a 300 communes dans le Morbihan. Avant 2017, les 300 faisaient par exemple les cartes d'identité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 30 communes qui le font. Et donc, eh bien, il y a peu de services à même de pallier le flux extrêmement important de demandes.
Les citoyens les plus désespérés tentent leur chance loin de chez eux, à Aurillac notamment, Marc, agent d'accueil à la mairie.
Sur les trois dernières semaines, chaque jour, nous avons des appels un petit peu plus nombreux de personnes hors département, voire hors région. Vendée, Toulouse, Paris, Marseille, Tours, Rennes. C'est vraiment jusqu'à 600 km aisément.
Le ministère de l'Intérieur a renforcé les effectifs, mais la tâche est lourde. En début d'année, les demandes de cartes d'identité ont augmenté de plus de 50% par rapport à l'an dernier, les demandes de passeport de 94%.
Les footballeuses françaises valident leur ticket pour le Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. 8e succès en 8 rencontres décroché hier au Mans face à la Slovénie 1-0 devant 10 000 spectateurs. Lui, plus que jamais favori pour le Ballon d'Or, Karim Benzema en sauveur, auteur d'un but en prolongation. Le Français du Real Madrid qualifie son équipe pour les demi-finales de la Ligue des Champions de football aux dépens de Chelsea, les Anglais pourtant vainqueurs 3-2. Autre qualifié, c'est une surprise, Villarreal a fait tomber le grand Bayern Munich grâce à son nul 1-1 match retour en Allemagne. Et à 835 jours des Jeux Olympiques de Paris, voici un autre champion, Charles Coste, doyen français des champions olympiques. 74 ans après son titre, il va recevoir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Son titre décroché, tenez-vous bien, en 1948 à Londres, médaille d'or en cyclisme, poursuite par équipe. Il raconte son épopée à Winnie Claret qu'il a rencontré chez lui en région parisienne.
Des Jeux d'après-guerre à Londres, Charles Coste se souvient de tout. Il a gardé chaque coupure de presse sur sa carrière de cycliste dans un gros album.
Il y en a tellement d'articles. Voilà, on arrive aux Jeux Olympiques à Londres. Voilà, ça c'est le départ, c'est moi qui fais le départ là. Mes camarades, Blusson, Adam et De Canelli.
Ses coéquipiers, Serge Blusson, Pierre Adam et Fernand De Canelli.
Nous étions logés dans un camp d'entraînement de fichiers américains. Ça, c'était les chambres, vous voyez. Il y avait des simples lits en fer, une table et deux chaises. C'était le minimum.
Et puis la finale de la poursuite face aux Italiens, après avoir sorti l'Angleterre, grande favorite en demi-finale.
À trois tours de la fin, mon camarade De Canelli a mené un train d'enfer tout un tour. Ce qui a désuni les Italiens, ils ne se sont plus retrouvés qu'à trois.
La Légion d'honneur, il va la recevoir des mains de Tony Estanguet. Estanguet, triple champion olympique de canoë et président de Paris 2024, un choix très symbolique.
Je rendrai hommage aux Jeux, je rendrai hommage à tous les athlètes et je pense qu'à Paris, ce sera grandiose.
Charles Coste espère être encore là pour voir les Jeux de Paris. Il aura alors soufflé sa 100e bougie.
Voilà, formidable histoire racontée par Winnie Claret.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, 21e épisode. Aujourd'hui à Nîmes, les Mélenchonistes en plein dilemme d'entre deux.